Mais pour l'heure, et comme tous les jours, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1 et l'impact du coronavirus sur notre économie, sur nos relations à l'international. Je suis en ligne ce matin avec Arantxa González Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères. Bonjour Arantxa González Laya.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Le coronavirus et ses effets dramatiques en Espagne. La solidarité européenne aussi. D'abord, l'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie. Plus de 7000 morts, des hôpitaux exsangues, mais ce matin des signes d'amélioration. Depuis 4 jours, le rythme de progression des cas positifs ralentit. Le nombre de décès quotidiens en baisse depuis hier. Dans cette crise, est-ce que vous pouvez dire que l'Espagne a passé le pic de l'épidémie? Est-ce que le pire est passé?
Bon, on doit toujours rester très prudent. C'est une maladie qu'on connaît pas très bien, mais c'est sûr que les efforts que nous avons faits, les mesures que nous avons prises il y a deux semaines, des confinements des 47 millions d'Espagnols chez eux, commencent à donner des résultats. Mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde. C'est pourquoi nous avons pris des mesures supplémentaires au début de cette semaine, réduction de l'activité économique non essentielle pour réduire 10 points de mobilité sociale et assurer qu'il y ait une vraie réduction de cette courbe qu'on regarde.
Oui, depuis hier,
quand on se lève.
Depuis hier, les salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail doivent se mettre obligatoirement en congé et devront récupérer plus tard ces jours s'ils ne travaillent pas dans les secteurs essentiels de la santé, l'alimentation ou l'énergie notamment. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ce choc, cette sidération en Espagne face au coronavirus? De l'impréparation des hôpitaux, un système de santé en manque de moyens ou c'est simplement le virus qui était trop fort?
À mon avis, c'est un virus qui est trop fort, qu'on connaît mal et qu'on a du mal à traiter. Et c'est pas que l'Espagne soit une exception. Si je regarde la planète, on commence à avoir des exceptions un peu partout. C'est probablement que l'Espagne a une longueur d'avance de 2-3 semaines par rapport aux autres membres de la famille européenne et un peu plus de longueur d'avance par rapport aux États-Unis. Où on commence
ce qui se passe en Espagne et en Italie, pensons à l'Italie aussi, ce qui se passe en Espagne et en Italie aujourd'hui, pour vous, c'est ce qui attend le reste de l'Union européenne?
En espérant que d'autres auront pu bénéficier de ce que nous avons pris en gérant cette pandémie nous-mêmes. Donc j'espère que les autres qui vont suivre verront quelque part l'impact des mesures que nous avons prises et pourront les émuler.
Je vais citer Anthony Castells, qui est directeur médical de l'hôpital clinique de Barcelone. La situation se complique jour après jour, dit-il sur la radio publique espagnole. On a commencé à rationaliser les ressources sur la base des possibilités de survie des patients. Je ne sais pas si c'est propre à l'Espagne ou si nous allons connaître ça en France. Est-ce qu'en Espagne, on trie les patients? Est-ce qu'on laisse, oui ou non, des patients âgés de côté pour se concentrer sur d'autres?
Non, pas du tout.
C'est pas ce que disent les médecins, pardonnez-moi. Hein. On entend des témoignages sur les réseaux sociaux, des personnels.
Il peut toujours y avoir un cas ponctuel dans un hôpital où il y a un problème ponctuel, mais c'est pas comme si dans l'ensemble du pays, on avait une manque des moyens généralisés, une manque d'équipement médical généralisé, une manque de personnel médical généralisé. C'est pas le cas. Et la preuve, c'est qu'on va commencer à réduire justement à cause des résultats des soins médicaux et des équipements qu'on a achetés. Mais c'est vrai qu'on est dans un marché où il y a une pénurie généralisée, les problèmes de l'accès aux masques, de l'accès aux médicaments, de l'accès aux respirateurs. C'est pas en Espagne seulement ou en Italie, c'est aujourd'hui en France, en Allemagne, aux États-Unis, c'est partout. Parce que c'est une pandémie,
d'accord,
c'est un problème de santé dans le monde. C'est ça qu'il faut comprendre.
Je voudrais citer votre Premier ministre, Pedro Sanchez. Tout ce que je peux offrir, c'est du sacrifice, de la résistance et un moral de victoire. Aujourd'hui, que nous disent les Espagnols? Vous avez ce matin l'oreille des Français, des dirigeants français certainement, qui écoutent Europe 1. Quel conseil est-ce que vous donnez aux dirigeants français?
Aux dirigeants français, il faut ancrer les décisions toujours sur la science, sur les avis des scientifiques, les avis des experts, qui sont eux qui peuvent mieux nous conseiller sur comment sortir. Et aux citoyens, restez chez vous. ne sortent pas, éviter les contacts physiques, parce que c'est ça les seuls moyens aujourd'hui qu'on n'a pas un vaccin pour traiter les coronavirus. C'est ça les meilleurs moyens d'éviter la propagation de la maladie. Surtout rester calme, obéir aux conseils, aux avis, aux instructions. Grincer les dents et sortir, parce qu'on va s'en sortir. On va tous s'en sortir, mais on va passer par des moments difficiles.
Parlons d'Europe, Arantxa González-Laya. Aux accusations du ministre des Finances hollandais qui vous reprochait à vous, l'Espagne, à l'Italie, de ne pas avoir mis assez d'argent de côté, hein, je résume, pour faire face à une telle crise sanitaire. Hier soir, cette dépêche, l'Italie exhorte l'UE à être à la hauteur. Vous, votre réponse était cinglante, vous-même. Hein, on est tous dans le même paquebot, en gros. On n'a pas le temps de se disputer sur des passagers de première et deuxième classe. Il y a une Europe à plusieurs classes, à plusieurs vitesses.
S'il y avait certains qui pensaient qu'il y avait une Europe à plusieurs classes, ils vont découvrir que c'est pas le cas. On est face à une pandémie. Ce n'est pas 2008 aujourd'hui, c'est 2020. On a un problème qui nous touche tous. On va tous être impactés par les coronavirus. On va tous devoir faire des dépenses gigantesques pour maintenir nos économies en hibernation pendant la durée de cette maladie. On va tous voir nos caisses s'est vidé un tout petit peu.
Mais pardonnez-moi, je vais repréciser ma question, parce que c'est pas celle-là presque la question, Arantxa González-Laya, parce qu'aujourd'hui on a bien compris, tous les moyens seront dépensés pour lutter contre le coronavirus, et là peut-être qu'on la voit un peu mieux, la solidarité européenne. Mais la suite, quand on aura tous des déficits abyssaux, est-ce que l'Europe va aider l'Italie et l'Espagne? Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver à nouveau dans ce que vous avez connu en 2008?
Il y a des pièces qui sont déjà en place. Donc, il y a une réponse de la Banque Centrale Européenne qui a été très positive. Il y a eu une réponse de la Commission Européenne avec des fonds structurels supplémentaires qui vont dans la bonne direction. Maintenant, il nous faut une réponse fiscale. Et c'est là où il faut faire
un impôt européen.
De solidarité. Et il faut faire plus de solidarité européenne, mais pas comme de la charité. Ce n'est pas
non, un impôt européen.
Peut-être. On a déjà des impôts européens. Peut-être il faudrait améliorer un peu plus la trésorerie européenne. Peut-être faudrait-il un budget européen un peu plus conséquent, qui pourrait aider d'une manière plus conséquente la sortie de cette crise.
Oui, mais alors, parce que la question qui peut se poser, c'est celle des moyens, finalement. Et on pourrait s'interroger de manière beaucoup plus simple. Pourquoi est-ce que la France achemine des masques depuis la Chine? Pourquoi est-ce que l'Italie doit en commander, l'Espagne? Pourquoi est-ce qu'on ne commande pas au nom de l'Europe?
On a commandé au nom de l'Europe. La Commission européenne vient de faire une commande énorme d'équipements sanitaires. Elle l'a déjà fait, mais entre-temps, il y a eu une urgence. Donc nous sommes tous jetés sur les marchés internationaux, pas simplement sur la Chine. Il y a aussi d'autres pays qui produisent tous ces matériaux dont on a besoin aujourd'hui d'une manière très conséquente.
Vous êtes optimiste, sincèrement. Vous avez fait, je le dis pour nos auditeurs, votre carrière dans les institutions européennes. Aujourd'hui, il y a une question clé qui va se poser à l'issue de cette crise. Est-ce que l'Europe, ce sont des pays qui lient davantage leur destin? Est-ce qu'il y a une véritable solidarité? Même Jacques Delors, très âgé et silencieux, s'est exprimé, a exprimé son inquiétude. Vous êtes optimiste sur la suite de l'Union européenne?
Moi, je suis activiste, comme disait justement Jacques Delors. Il faut rester activiste, il faut retourner aux sources. Il faut toujours se souvenir des conseils qu'ils nous avaient donnés Schuman et Monnet, pères fondateurs de l'Union européenne. Petit pas, toujours en avant, créant des solidarités d'effet. C'est aujourd'hui les grands moments de la solidarité européenne. C'est de ça qu'il s'agit si on veut peser dans un monde dans les futurs, où il y aura des géants comme la Chine et les États-Unis qui seront beaucoup plus pressants. Si l'Europe est pesée, il faut aujourd'hui plus de solidarité. C'est aussi simple que ça.
Merci. Merci beaucoup d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Interview dans un français parfait, je veux le saluer aussi, c'est ça l'Europe. Aussi Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères. J'entends que vous appelez pour la suite à une hausse du budget de l'Union européenne, si je comprends bien, une meilleure trésorerie avec peut-être de nouveaux impôts. On suivra évidemment. Arantxa González-Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, était mon invité. 7h49. Europe.